This is a vicious expose of a part of the young generation, that sick generation who must ravage and plunder for their kicks.
Culture prohibée attaque Gérard May. Eh oui, le dernier épisode en direct. En direct de Gérard May pour le 19e Festival International du Film Fantastique de Gérard May, que nous couvrons donc quotidiennement depuis le début. Donc nous vous rappelons que votre émission préférée est consacrée à l'actualité de la culture panette du Ciboulot, qui d'habitude est hebdomadaire, était donc jusqu'à aujourd'hui exceptionnellement durant le festival quotidienne. Et donc, c'est toujours l'émission animée par les équipes des films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr, et donc plus d'infos sur notre blog culture-prohibé.blogspot.com. Alors donc nous sommes toujours en direct de Gérard May. Nous sommes donc très bien accueillis par nos amis de Public System. On va aussi en profiter pour faire un petit coucou à Benjamin Gessler de chez Whiteside, qui nous a permis aujourd'hui de rencontrer Karim Hussein. C'était une belle rencontre, un des réalisateurs du sketch, le réalisateur du sketch Vision Stains, l'un des sketchs de The Theater Bizarre dont on a déjà parlé dans cette émission, dont on reparlera donc très prochainement, puisqu'on a eu cette petite interview vraiment vraiment passionnante. Alors petit teaser donc, voilà. Et puis aujourd'hui on va quand même, aujourd'hui s'est passé un événement à Gérard May, il s'est passé un truc incroyable, il a fallu attendre le dernier film en compétition. Nous avons vu un bon film, enfin plus qu'un bon film même, un très bon film, qui aurait été apte à concourir dans la compétition de qualité qui s'est déroulée l'année dernière. Et donc j'étais accompagné pour voir ce film, comme d'habitude, de mon inusable compagnon Yeti Breton. Alors bon, un Yeti Breton, ça passe donc relativement inaperçu, je vous rassure, à Gérard May, hein, puisqu'on peut y croiser des catcheurs masqués, des créatures du lac noir, ainsi que Michael Myers. Donc seuls les aficionados pigeront. Mais ami Pierrick Guenec, alias Yeti Breton, comment vas-tu ?
Bah très bien, et un peu fatigué au bout de cette longue compétition et de tous ces films.
Bah aussi, à cause aussi des pauses entre des films qui nous contraignent à aller, il faut bien le dire, au troquet le plus proche, quoi, aussi. Il faut dire que ça fatigue pas mal.
Un petit peu quand même.
Voilà, c'est un boulot difficile.
De longues files d'attente aussi à faire.
Oui, les longues files d'attente, mais encore, ne nous plaignons pas trop. Il y a des gens qui ne sont pas accrédités, qui font des files d'attente de 2 heures, donc bon, dans le froid, donc bon, on a une petite pensée pour eux quand même. Même s'ils nous haïssent en nous voyant passer assez rapidement sans faire une queue trop longue, on les aime. Alors, puis c'est quand même un public très enthousiaste qui a enfin été récompensé justement de ces heures passées dehors à faire de longues files d'attente, à participer à de longues files d'attente, en voyant ce matin enfin un bon film, Baby Call. Alors Baby Call, c'est un film de Pal Sletone. Alors Pal Sletone, moi j'avoue, mon inculture totale concernant ce cinéaste, je ne le connais pas du tout. Je l'ai découvert ce matin. Alors j'avoue ma méconnaissance totale, parce que j'aurais dû remarquer ce cinéaste, et peut-être que ses films sont tout simplement pas sortis en France. Alors il est né en 1960, donc il est diplômé de l'université d'Oslo en littérature, mais bon, il a fini cinéaste, et donc comme quoi parfois on débute bien, on finit mal. Et donc il commence en 97 avec Junk Mail, qui est son premier film, et déjà il remporte le grand prix de la semaine internationale de la critique au Festival de Cannes. Donc déjà c'était un indice. Et puis bon, visiblement il a fait quelques films depuis, et visiblement il a hérité en particulier d'un Lion d'Or, je crois que c'est à Venise le Lion d'Or, et un Lion d'Argent également. Donc c'est quand même un cinéaste chevronné, un cinéaste qui maîtrise déjà bien son sujet. Et ce qui explique peut-être d'ailleurs pourquoi le film est si bon, parce qu'on a eu beaucoup de films de jeunes cinéastes, voire des premiers films depuis le début de la compétition, bien que le film allemand, qui était un premier film, était très bien. Là, Baby Call, ça nous donne donc à voir, Janoumi Rapace, qu'on n'avait pas revu depuis Millennium, la saga originelle, la série de films originelle, qui est égale à elle-même, et ça se révèle extraordinaire. Enfin, c'est vraiment une actrice magnifique. Elle campe donc une mère qui se retrouve, son fils a failli être tué par le père, qui était visiblement un monstre absolu, quoi. Et elle vit dans un appart, dans un appart dans une cité HLM, un truc assez désincarné. Elle vit avec son môme, en fait. Et bon, bah, elle est très surveillée par les services sociaux, tout ça, parce que bon, le mari prend un nouvel avocat, et puis bon, voilà, il risque d'y avoir procès à nouveau. Donc elle veut à tout prix garder la garde de son enfant. Et puis donc, ce qui se passe, c'est qu'elle a surtout très peur qu'il sorte de l'appartement, qu'il soit pas avec elle pour dormir. Enfin bon, voilà, tout ça. Elle veut pas le quitter en fait d'un poil, parce qu'elle a vraiment peur qu'on vienne lui ravir son enfant par n'importe quel moyen. Donc elle achète un baby call, parce que bon, le gamin a 8 ans quand même, donc ce serait bien qu'il dorme tout seul, quoi. Donc elle achète un baby call, vous savez, ces petits appareils qui permettent d'écouter ce qui se passe dans la chambre de votre enfant, pour lui permettre de dormir tout seul. C'est à quoi le gamin répond cool, quoi. Enfin, il se sent un peu libéré de l'emprise de sa mère. Puis elle le met à l'école, parce qu'elle lui faisait cours elle-même avant, elle le met à l'école et tout, enfin, pour que le gamin se sociabilise, tout ça. Enfin, elle fait des gros efforts, même si elle reste complètement terrorisée à l'idée de perdre son enfant. Et donc ça part de là, et donc bah, ça bascule, bien sûr. C'est un film très envoûtant qui bascule dans le fantastique. Enfin bon, j'en dirais pas beaucoup plus, si ce n'est que bon, bah, dès qu'elle utilise ce baby call, elle entend des bruits horribles d'un enfant qui se fait torturer. Et quand elle va dans la chambre de son fils, il n'y a pas d'enfant qui se fait torturer. Et donc voilà, puis en filigrane, il y a aussi une histoire d'amour avec le vendeur qui lui a vendu le baby call, qui est un type... un peu en, comment dire, qui accompagne sa mère en fin de vie, qui est un type assez triste, assez, puis qui trouve un peu son équivalent, son pendant féminin dans ce personnage campé par Noomi Rapace. Et donc bah moi je dirais enfin un superbe film avec un vrai point de vue de réalisateur, une véritable esthétique, un film qui m'a rappelé un peu Morse de Thomas Alfredson dans son utilisation, enfin des, comme ça, des décors HLM, tout ça, enfin bon, truc assez impersonnel. Et en même temps, il y a de la poésie, en même temps c'est touchant, mais c'est pas larmoyant. En même temps c'est aussi envoûtant et effrayant quand même quelque part. Enfin bon, je trouve que le film regorge de qualité, à mon avis. À chaque vision on découvre de nouvelles choses. Pierrick, ton sentiment sur ce film ?
Bah, je te rejoins complètement avec un petit peu les mêmes références. J'ai aussi pensé à Morse. Enfin, d'abord, ouais, ce qui m'a marqué, j'ai vraiment été envoûté par le film, quoi. Je suis rentré dedans, on prend le tempo, on se laisse guider, on n'a pas forcément toutes les réponses à la fin, il y a des zones d'ombre, et finalement, ça m'a pas dérangé, alors que je suis plutôt rationnel. Parfois, je trouve que justement, c'est un peu facile dans les scénarios de laisser un petit peu d'ambiguïté, comme ça, c'est aussi... Enfin, parfois, ça donne plus l'impression que c'est par paresse. Là, j'ai vraiment pas eu le cas. Il y a vraiment quelque chose d'envoûtant dans la musique. Le jeu de l'actrice est vraiment extraordinaire. Comme tu dis, je pense qu'il faut le revoir, parce qu'il y a vraiment beaucoup de petits détails. C'est très soigné. Enfin, il y a plein de petites idées comme ça. C'est-à-dire, déjà dans l'évolution de la femme qui se fait entre le début et la première moitié du film, c'est-à-dire qu'au départ, elle ferme systématiquement les rideaux alors qu'elle est au 7e étage du HLM. Mais bon, voilà, pour montrer qu'elle... C'est cette peur qu'elle a de l'extérieur, cette peur de revoir son mari. Puis au fur et à mesure, elle va laisser les rideaux dégagés, elle va accompagner son gamin à l'école. Alors au départ, elle va carrément à la porte de la classe. Enfin, on la voit tenir son gamin par la main, Anders, je crois qu'il s'appelle.
Ouais, c'est ça.
Enfin, c'est pas tout à fait la prononciation, mais à la française, ça donnera ça. Et elle accompagne ce gamin en le tenant par la main jusqu'à la porte de la classe. Alors genre, on se dit, le pauvre gamin, par rapport à ses camarades, il va se faire chambrer, là. Et puis au fur et à mesure, elle va l'accompagner jusqu'au portail de l'école. Enfin, il y a vraiment plein de petites choses comme ça, et c'est toujours, mais vraiment très subtil. Et comme tu dis, c'est assez, ce qui est assez original, et c'est là effectivement que vient la comparaison avec Morse, c'est de créer le fantastique et de l'ancrer vraiment dans un milieu social plutôt assez démuni. Enfin voilà, c'est ces grandes barres d'HLM. Lui, il est vendeur dans un petit magasin d'électroménager. Elle, elle est des êtres abîmés par la vie, elle est suivie par la DAS. Enfin, c'est vraiment bien de réussir à créer le fantastique, de faire naître le fantastique et la poésie de ces décors-là. Bon, il y a des très très beaux plans en plus sur le HLM qui se révèle assez utile après, parce que ça, bon, déjà ça plante le décor. Ensuite, on se demande, voilà, de quelle fenêtre, enfin, elle cherche de quelle fenêtre peut venir le bruit du baby call qu'elle a entendu, en cherchant, voilà, elle se dit, ouais, il a une partie de 50 mètres, donc ma fenêtre est là, c'est peut-être la fenêtre du dessous. Enfin, voilà, tous ces plans ont leur importance, et dans l'intrigue, et dans la façon de planter le décor. Et voilà, Et donc il y a vraiment une vraie poésie, un vrai envoûtement qui naît de tout ça. Et en même temps, c'est pas non plus comment dire. C'est pas non plus une façon de magnifier non plus on n'est pas dans la classe ouvrière, mais bon, c'est ces milieux sociaux un peu défavorisés, voilà. Il y a pas
d'angélisme, c'est ça que tu veux dire?
Ouais, aucun angélisme, on cherche pas à le magnifier non plus, enfin c'est, il y a vraiment quelque chose d'assez naturaliste dans le film. Et puis c'est très poignant quand même, parce que alors c'est vraiment l'inverse du film d'hier, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs pistes qui sont lancées, qui petit à petit commencent à converger, parce qu'il y a des histoires au départ on voit pas très bien, qui n'ont pas trop de liens entre elles, parce qu'il y a l'histoire du baby call, il y a l'histoire de ce vendeur d'électroménager dont la mère est en fin de vie, il y a cette chose avec son mari dont elle a peur qu'il vienne récupérer l'enfant, le procès, les services de la DAS qui la suivent, donc il y a peut-être quasiment trois intrigues au départ qui finalement se recoupent.
Et puis il y a aussi les sous-intrigues autour du gamin en fait, avec son pote et tout ça, enfin bon.
Voilà, et finalement ces intrigues finissent, j'irais même pas par se recouper, mais par s'effleurer comme quelque chose d'un peu tangent, et ça fait vraiment partie du charme de ce film, quoi, ces êtres cabossés par la vie. Et puis il y a quand même beaucoup de choses sur l'enfance maltraitée quand même, qui est jamais misérabiliste, quoi. Donc je dis chapeau bas, quoi.
Non mais oui, alors effectivement c'est, bon, on peut dire c'est sans conteste le meilleur film de la compétition, en tout cas dans ce qu'on a vu de cette année en compétition, c'est de loin le meilleur film avec un vrai point de vue de réalisateur. En plus moi ce que j'aime beaucoup dans le film c'est que ça traite quand même d'un sujet archi rebattu, hein. C'est, je veux dire, le principe du film en lui-même, qu'on va pas révéler, mais c'est quelque chose de déjà vu, seulement c'est pas du tout traité à la manière des blockbusters américains ou des films anglo-saxons, enfin d'une manière classique. C'est vraiment traité d'une manière
très subtile
et quelque part assez inédite, parce qu'en fait le film nous invite à aller chercher les clés au fond de nous-mêmes, en fait, pour ouvrir toutes les petites boîtes du film. Et donc c'est en cela que le film fait preuve effectivement d'une subtilité. Il a laissé un peu perplexe certains spectateurs. Un spectateur à la fin qui venait nous demander des explications et tout, c'était assez drôle, parce qu'en fait le film est pas si complexe que ça à comprendre, mais ce qui désarçonne les spectateurs, c'est que contrairement à un film anglo-saxon où à la fin tout aurait été rationalisé, on nous aurait expliqué par un flashback sur des plans et tout, que bon voilà, en fait ça se passait comme ci, comme ça, là en fait non, pas du tout, là en fait c'est vraiment à nous d'aller chercher les clés, à essayer de comprendre comment on en arrive au Deus Ex Machina, à essayer de comprendre qu'est-ce qui motive les personnages dans leurs actions, dans leurs actes. C'est vraiment un film assez passionnant. Et puis en plus ce que j'aime bien, c'est que on a critiqué cette semaine l'utilisation du flash forward dans le film Eva de Kike Maio, et là en fait c'est super bien fait, parce qu'il y a un flash forward au début du film, mais en fait quand le film avance déjà au bout de 5 minutes on sait pas si c'est un flashback ou un flash forward, on sait pas si on nous annonce déjà la fin du film, mais pas plutôt par contre est-ce qu'on ne nous annoncerait pas ou révélerait pas le passé de cette héroïne justement. Et donc c'est ça qui est très intéressant, tout le film nous emmène sur des fausses pistes et puis élimine les grosses ficelles. Alors, on n'en dira pas plus, mais par le biais à un moment d'un jeu ou d'un hasard, d'une photo prise par Helge, donc le personnage masculin principal, on désamorce tout ce qui aurait été gardé vraiment jusqu'au dernier moment pour provoquer une sorte de révélation finale
à la sixième sens.
À la sixième sens, voilà, qui est là, qui est complètement gommé et qui est vraiment tout de suite on est fixé. Je veux dire, mais Du coup, ça donne un caractère complètement envoûtant au film, et du coup, on a envie de savoir beaucoup plus que si on nous cachait plein de choses. En fin de compte, le film ne nous cache rien, mais ne nous révèle rien non plus, et en cela, le film est très fort, et il a une réalisation en plus qui vraiment, on est lové dans ce film, en fait, on se sent comme dans un espace capitonné, comme si on était assis dans un siège. Le film, on se love dans cette, jusqu'au final, justement, où on est touché, en fait, en plein cœur, et alors que c'est un truc tout bête qui aurait pu être vraiment ridicule, même, dans un autre film, ou traité de manière ridicule par un mauvais réalisateur. Et je trouve vraiment que... Ouais, voilà, enfin, je trouve vraiment que c'est le meilleur film de la compétition. Et en plus, c'est un film fantastique quand même, malgré tout. Avec un vrai ressort fantastique. Parce que vu dit comme ça, on dirait que c'est un film plutôt social. Enfin bon, voilà, un drame social. C'est aussi un film fantastique. Le réalisateur joue la carte du fantastique quand même pleinement. Et ça en rend son film que plus passionnant.
Et c'est vraiment très bien servi, bon, tu l'as déjà dit au début, par l'actrice, qui a vraiment un jeu tout en sobriété, elle porte vraiment le film. Il n'y a aucun tic, enfin, parce qu'elle a quand même un rôle qui n'est pas évident, qui aurait pu donner lieu à des dérapages, des tics, un peu un jeu théâtral, rien de tout ça. Enfin, celui qui joue d'ailleurs aussi le vendeur d'électroménager est également très bien. Enfin, chapeau, c'est, oui, chapeau aux acteurs également.
Il amène même une touche d'humour à travers son personnage et tout, qui est pourtant un personnage qui est dans le désarroi, qui est très triste. Et il amène des touches d'humour, il y a des petites touches d'humour dans les dialogues. Enfin, en même temps, c'est parce que les acteurs sont très bons aussi, quoi. Et
j'ai plus vu ça comme de l'humour à l'intérieur du film, et pour nous, c'est plus touchant que.
Oui, ça a un côté touchant, mais en même temps, ça permet aux spectateurs aussi de décompresser un petit peu, quoi, par moment. Parce que le film aurait pu être très lourd, avec une charge très forte, avec, bon, voilà, très lourd. Enfin, bon, alors, le truc sur les enfants battus, le truc, enfin, il y a plein de choses là-dedans qui sont, plein de sujets qui sont abordés, qui pourraient être traités, s'ils étaient traités avec des gros sabots, qui seraient strictement insupportables, je pense, ou voilà, quoi. Et le réalisateur évite tous les écueils, quoi, vraiment liés au film social. Et il nous donne à voir, ma foi, un bien beau film.
Ouais, puis comme tu dis, voilà, c'est aussi un film fantastique. C'est aussi un film où les personnages sont très ambigus, parce que bon, plusieurs moments dans le film, finalement, je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas quand même. La mère, est-ce qu'elle est vraiment ce qu'elle paraît être? Est-ce que.
On a même à se demander si c'est la mère qui, à un moment, qui a attenté à la vie de son fils.
Voilà, bon, je vais pas le dire, mais effectivement, voilà, je pense à ça. Oui.
Donc, bon, il y a plein de choses comme ça qui sont effectivement passionnantes dans le film. Et...
Lui, à un moment, je lui dis, tiens, est-ce qu'il est pas de machin avec le père? Enfin, on peut s'imaginer plein de trucs, et c'est ça qui est bien. Mmh.
Et puis, tout l'environnement, tout paraît menaçant, y compris les services sociaux qui sont là pour l'aider, dont le type a un comportement assez étrange, enfin, bref.
Ouais, alors, après Millennium, on se dit, la Suède, ils ont des services à régler avec leurs services sociaux.
C'est peut-être ça. En attendant, on vous conseille vivement, en espérant que, parce que c'est distribué en France par Jour de Fête, et si ça sort au cinéma, on vous conseille vivement de vous jeter tout de suite dans la première salle qui le projette. Avant l'annonce du palmarès, puisque vous pourrez écouter quelques extraits de la cérémonie de clôture, nous on voulait effectivement se livrer à un exercice qu'on n'a pas pu faire l'année dernière, puisqu'on a surtout commenté le palmarès l'année dernière, mais c'est plutôt là de faire à nous notre palmarès, dire un peu quel film nous on sortirait de ce festival. On vient de vous dire tout le bien qu'on pensait de Baby Call, de Paul Sletton avec Noomi Rapace. On a assez regretté d'ailleurs qu'il n'y ait pas des prix d'interprétation dans ce festival, parce que entre Rebecca Hall et l'actrice principale de The Awakening, la Maison des Ombres de Nick Murphy, et puis l'actrice qui joue dans Baby Call, donc Noomi Rapace, il y aurait forte concurrence. Ce sont toutes les deux des révélations un peu de ce festival. Et faire un peu le tour des films projetés, vous livrer un peu notre sentiment sur cette programmation, enfin bon voilà, bah, Pierrick, toi, quel est ton sentiment un peu sur la compétition cette année des longs métrages à Gérard May?
Moi, j'ai trouvé un peu plus faible que l'année dernière, mais bon, ça, je pense que nos spectateurs l'auront compris. Enfin, c'est pour ceux qui ont suivi depuis le début des émissions, qu'on était quand même moins emballés que l'année dernière, où chaque jour il y avait un.
Nos auditeurs.
J'ai dit quoi?
Nos spectateurs. C'est la déformation de passer sa journée dans les salles de cinéma, je pense.
Nos auditeurs l'auront compris. On a eu moins de coups de cœur que l'année dernière, où vraiment chaque jour, enfin, au moins une fois par jour, il y avait un film qui nous avait foutu une claque, des films dérangeants, des films originaux. Donc là, la compétition était quand même plus faible, plus terne dans l'ensemble. Je la trouve aussi plus déconnectée du réel et de la société. Ce qui n'est pas forcément une critique. Après, c'est aussi suivant la fibre de chaque spectateur, là, pour le coup, qui vont dans les salles obscures. Certains préfèrent peut-être justement ces films qui se passent peut-être à une autre époque, qui disent peut-être pas grand-chose de la nôtre, des films de fantômes, des films qui fonctionnent un peu plus en vase clos, à part le film de ce matin, et encore que il est pas un contenu social très fort quand même dans celui-là, par rapport à l'année dernière où c'était bon des films de genre, mais qui nous disait quand même beaucoup de choses sur l'état de la société, sur les pressions qu'on subissait au travail, les pressions qu'on pouvait subir pour trouver un appartement. Là, je pense à Dream Home, qui est un slasher, hein, mais bon, il y avait ça aussi en filigrane, donc il y avait peut-être moins de ça dans la compétition cette année.
Bah, je pense aussi qu'il ne faut pas être trop méchant. Elle parle quand même de choses qui peuvent arriver, effectivement, le réchauffement climatique, tout ça. Enfin bon, en même temps, c'est un postulat de départ assez classique du film post-apocalyptique, mais...
C'est le postulat de départ, mais c'est pas repris avec, c'est juste une façon, enfin moi en tout cas j'ai pris comme ça dans Elle, c'est juste une façon de poser le film ensuite finalement.
Bon, on peut aussi se dire que c'est le monde de demain tel qu'il sera, enfin bon voilà, enfin on peut aussi le prendre comme ça. Dans ce cas-là, on peut se dire que c'est un film effectivement avec un fort contenu politique, mais bon, je pense qu'effectivement il faut plutôt le prendre comme un film qui a une base effectivement classique du film post-apocalyptique et qui développe plutôt une histoire forte avec des personnages forts. Que, en particulier d'ailleurs aussi une actrice très bien d'ailleurs, cette actrice allemande dont j'ai oublié le nom là, mais qui joue dans Elle. Bon voilà, ça développe plutôt effectivement un film de SF post-apocalyptique réussi, qui reste quand même dans les classiques du genre, mais vraiment
ah oui, le film est réussi. Après c'est pas forcément une question de réussite ou pas du film, là c'est un sentiment plus de sur comment dire les thèmes des films en général.
Parce que certains ont vu aussi dans le film Eva de Kike Maio une réflexion sur la génétique, sur l'avenir de l'être humain. Enfin bon,
je trouve que le film passe complètement à côté de ces thèmes-là.
Bah bon, c'est effleuré. Enfin bon, c'est inévitable en même temps parce que c'est un film de SF qui raconte sur un type qui construit un robot qui veut rendre humain. Donc forcément, je veux dire, mais en même temps, c'est pas nouveau. On l'a déjà vu dans plein d'autres films. Il y a pas de nouveauté particulièrement. Je trouve que le thème est vraiment effleuré. Par exemple, il est vraiment pris à bras le corps dans AI, par exemple, intelligence artificielle de Spielberg, que tandis que dans Eva, il est pas pris vraiment à bras le corps. Mais bon, je dirais quand même que bon,
ne serait-ce que la société dans laquelle ils vivent, c'est-à-dire ils sont entourés de robots, mais finalement leur société ressemble étrangement à la nôtre. Quoi, il y a aucune transformation. Enfin.
Ouais, mais c'est une
société hyper technologique.
Contre, pour le coup, je trouve ça très pertinent, tu vois. J'imagine bien qu'effectivement, si on se met à avoir des robots qui fonctionnent et tout, ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils ont des caisses pourries avec. Alors qu'ils ont plein de robots sophistiqués et tout, qui travaillent pour eux et tout, mais justement, c'est assez rigolo. Moi, j'aime bien cette vision où, en fin de compte, voilà, on a un robot qui nous porte notre panier de course pour pas avoir à le porter et tout, mais bon, toutes ces choses-là, mais il n'y a pas des robots partout et tout, c'est pas iRobot. Le film avec Will Smith là, d'Alex Proyas, on n'est pas là-dedans, on est dans une société où il y a quelques robots par-ci par-là, puis voilà quoi, c'est... Ouais, ça me choque pas du tout, je trouve ça plutôt rigolo d'ailleurs comme vision, parce j'en ai pas parlé dans l'émission, mais ce qui m'avait fait vraiment délirer, c'est ce côté justement, il y a des robots partout, tout ça, en même temps les maisons ressemblent plutôt à des vieilles bicoques, et puis les voitures sont des voitures pourries, enfin... Le monde est vraiment tel qu'est le nôtre aujourd'hui, avec juste quelques robots en plus. Ce qui est à peu près logique, parce que dans mon souvenir, je crois que le film se passe pas très très loin dans le futur, c'est en 2041, voilà. Donc bon, il y a une logique dans tout ça, je trouve. Bon, voilà quoi. Enfin bon, je sais pas s'il y aura encore des Saab 900 en 2041, mais bon, on verra bien quoi. Mais bon, pour en revenir au festival, bon, moi il y a quand même quelques films que j'élimine tout de suite de mon palmarès perso, c'est Beast, hein, le film danois de Christopher Bo que j'ai trouvé tout simplement déplorable. C'est le plus mauvais film pour moi de la sélection. J'élimine aussi The Cat, plastiquement le film est pas mauvais, je sais que toi t'as bien aimé Pierrick, mais bon, bah, j'en ai marre j'ai l'impression d'avoir déjà vu 10 000 fois le film, donc moi j'élimine. Eva, je pense qu'il peut mériter un prix du public, il a beaucoup touché le public, il a des qualités ce film, on a peut-être été un peu dur avec quand même, parce qu'il a des qualités ce film, mais disons que pour moi il a pas l'étoffe d'un film qui mériterait un grand prix, par contre il a l'étoffe d'un film qui mérite un prix du public. Mais disons que moi après j'ai du mal à me départager, je dirais qu'en numéro 2 ex aequo je mettrais Elle de l'allemand Tim Felbaum, parce que j'ai un petit faible pour les films post-apocalyptiques, j'ai un petit faible pour les jolies filles dans les rôles principaux, donc à savoir Anna Ersprung, en plus qu'elle joue super bien, en plus c'est vraiment une révélation, je connaissais pas cette actrice qui a été visiblement multiprimée en Allemagne, et puis surtout j'ai trouvé le film vraiment bien, avec un vrai point de vue de réalisateur, vraiment bien foutu. J'ai dit tout bien, j'en pensais. Et je le mettrais deuxième ex aequo avec La Maison des Ombres, The Awakening, qui en fin de compte, en comparaison du reste du palmarès, ça va être un excellent film de maison hantée, vraiment très très au-dessus du lot, même si c'est pas un film qui effectivement révolutionne le genre, mais un film très bien troussé, très beau, voilà. Et puis après, bon, j'éliminerai des films qui m'ont déçu. Alors, The Most Diaries, parce qu'il m'a déçu, vous l'avez compris, j'en attendais tellement, peut-être trop. Pastorella, parce que bon, c'est plus une comédie. J'ai beaucoup aimé Pastorella. Mais bon, voilà, c'est un film où le fantastique est plutôt un argument pour faire rire, quoi. Hein, donc voilà. Et puis, je garderai vraiment en film, pour moi, le film que je préfère par-dessus tout, c'est Baby Call, hein. Vous avez compris. Et puis donc, avec un petit faible pour Elle et la Maison des Ombres, le film de Nick Murphy, de Maison Hantée, avec Rebecca Hall. Là aussi, belle et talentueuse actrice en devenir, et j'espère qu'elle retrouvera des rôles de cet acabit. Et toi, Pierrick, qu'est-ce que tu éliminerais, qu'est-ce que tu garderais dans ton palmarès?
Alors, il faut laisser aussi le mûrir. Bon, là, on vient de voir le dernier film. C'est vrai qu'on se rend compte, finalement, des films, ça grandit en nous ou pas, d'ailleurs. Pour l'instant, moi, j'en retiendrai 4. Enfin, je vais retomber un petit peu dans ce que tu as dit. Hein. J'en retiendrai la Maison des Ombres, que je ferai de bonne facture. Elle, que j'ai beaucoup aimé dans le genre film post-apocalyptique. Je trouve qu'il a des réelles qualités, même s'il renouvelle pas le genre, il évite au moins certains écueils, quoi. Enfin, ça dérive à aucun moment dans le torture porn. Enfin voilà, on sent quand même que le metteur en scène s'est posé des questions, jusqu'où aller, et je pense qu'il y répond plutôt bien, les moments où il faut arrêter de filmer, les moments où il faut plutôt filmer du côté de l'héroïne, et puis l'histoire se suit bien. Il y a des bonnes idées avec ce soleil aveuglant dès qu'ils sortent dehors. Enfin non, franchement, moi j'ai beaucoup aimé Elle. En plus, c'est pas du tout manichéen sur les personnages. Je retiendrai aussi The Cat. Alors toi, tu l'as vraiment pas aimé. Je trouve vraiment raté. Hein. Bon, je vais peut-être redire ce que j'ai dit hier, mais je trouve assez raté sur sa partie fantastique. Qui fait pas vraiment pas peur, c'est même un peu ridicule ces histoires de chats, mais j'ai vraiment bien aimé le côté enquête, le côté drame, ce couple qui se forme avec lui, qui est un peu gauche quand même, un peu pato.
Ouais, tu peux peut-être rappeler le couple, c'est un flic un peu lourdeau avec une vendeuse d'animalerie.
Ouais, lourdeau, je sais pas si c'est le mot, gentiment crétin peut-être plutôt.
T'es tellement plus sympa que moi.
mais sympa, enfin. Et donc elle qui est vendeuse dans une animalerie, sachant que lui avant il sortait avec la meilleure copine de l'héroïne, et quand il revoit l'héroïne c'est pour lui demander des nouvelles de sa meilleure copine. Enfin voilà, donc il y a comme ça un couple qui se constitue au fur et à mesure en enquêtant sur ces morts liées au chat. Donc enfin, moi j'ai vraiment aimé toutes ces parties là, et justement le film progressant de plus en plus vers là, finalement il laisse un bon souvenir sur la fin, alors qu'au début c'est vrai qu'on se dit bon, ça va pas être très très bon, et donc finalement ça va pas déranger que ce soit des histoires de fantômes vues x fois. Et puis pour l'instant en tête, bon déjà on l'a vu ce matin, donc c'est forcément le film qui est encore le plus vivace, mais que j'ai vraiment trouvé, pour toutes les raisons qu'on vient de citer précédemment, Baby Call, que je mettrai en tête, et qui pour moi mérite largement le grand prix du jury de Gérard May. Après, ce qui est dommage quand même dans cette compétition, c'est que voilà, on n'a pas d'hésitation. Enfin, finalement, on n'a pas tant que ça d'hésitation, alors que l'année dernière, bon, il y avait quand même plusieurs films qui méritaient ce grand prix. Alors que cette année, franchement, moi, je vois que Baby Call, parce que j'aime beaucoup Elle, qui a un premier film, mais il n'est peut-être pas encore de ce niveau-là, en tout cas.
Ce qui est assez logique d'ailleurs, puisque le réalisateur de Elle est beaucoup plus jeune que le réalisateur de Baby Call, qui est un réalisateur chevronné. Et puis moi je rajouterais aussi en boîte, et puis pour la sélection court métrage, qui a vraiment été mon coup de cœur de la compétition court métrage. Voilà, alors maintenant on attend fébrilement l'annonce du palmarès.
The 19th, so welcome to you all. Thanks so much for being here with us for this final award ceremony for the Gérard May Festival.
On va commencer avec notre jury court-métrage.
Et le président du jury court-métrage, le directeur de la programmation de la Cinémathèque française,
Jean-François Roger. Jean-François, of course, the programming director from the Cinémathèque.
Je disais à mes amis, les membres du jury, il n'est pas impossible qu'on se fasse huer, mais c'est pas grave, on assume. Non, on a particulièrement aimé deux films. On a discuté longuement sur les deux et finalement on a été obligé de les partager puisque le règlement nous interdisait de donner deux prix. Donc on a décerné une mention spéciale à un film qui nous a beaucoup plu pour la façon avec laquelle le réalisateur réussit à plonger le spectateur dans un univers relevant d'une longue tradition de l'art fantastique. Il s'agit du Lac Noir de Victor Jacquin. Et le grand prix, donc, est accordé au film Le Cri de Raphaël Mathier.
Donc tout à l'heure, on a vu le jury court-métrage. On va maintenant découvrir ici sur scène leurs grands frères et sœurs, en quelque sorte, on peut le dire. C'est bien sûr avec le jury long-métrage. Et le président du jury long-métrage, M.P. Bilal.
Bonsoir.
Alors tout d'abord, s'il vous plaît, le prix du jury.
D'abord, bien sûr. J'avais dit en début de la cérémonie d'ouverture, j'avais dit que nous allions nous étriper, que ça avait été extrêmement âpre. Donc je confirme, ça a été très facile. Prix du jury. Ex aequo, on a voulu qu'il y ait deux films. Ils sont parfaitement ex aequo, donc je vais les citer par ordre alphabétique. Et je commence par Beast, de Christopher Boyle. Ex aequo, La Maison des Ombres.
Qui a remporté le grand prix du 19e édition du festival de Jérôme Henke?
Alors, grand prix, Baby Cole.
Nous allons donc récapituler ce palmarès. Et oui, car on se prête à l'exercice. Là, c'est tout frais en direct live. On sort de cette cérémonie de clôture. Et puis, bon, vous avez un peu livré nos impressions à l'instant. Et maintenant, voilà, le but du jeu, c'est de comparer un peu avec ce qu'on avait dit juste à l'instant. Et puis de voir un peu ce que nous on en pense, comment on analyse ce palmarès. Alors tout d'abord, il y a eu dans les prix qui ont été donnés, il y a eu le prix du meilleur court-métrage. Alors il y a eu quelque chose d'assez particulier qui est pas fait régulièrement, enfin qui est rarement fait. C'est une mention spéciale qui a été attribuée à un court-métrage dans l'émission d'hier, on a dit tout le bien qu'on pensait pour son aspect esthétique. Justement, cette mention spéciale, elle lui a été accordée pour cet aspect esthétique. Effectivement, elle est assez unique. Et c'est donc le Lac Noir de Victor Jacquet qui effectivement est très beau et fait vraiment appel à tout un pan visuel de l'univers cinématographique lié au fantastique. Et puis le grand prix, c'est Le Cri. Alors, on vous a dit hier qu'on n'aimait pas du tout ce film, enfin pas beaucoup ce film. C'est le grand prix, c'est-à-dire que c'est l'un des deux moins bons courts-métrages qui a été primé. Ça n'engage que nous, c'est notre avis bien sûr, on n'a pas le même avis que le jury, c'est tout. Donc c'est un court-métrage de Raphaël Mathier, bon, sur lequel on s'étendra pas trop parce que on vous a dit hier ce qu'on en pensait et voilà, et c'est pas spécialement notre tasse de thé quoi, mais bon, voilà. Et puis il y a eu le prix du jury jeune. Alors le prix du jury jeune, tous les ans, en fait, enfin, le jury jeune se distingue quand même pour faire quelque chose de... Enfin, ils travaillent très sérieusement et l'année dernière, ils avaient distingué Ice House de Devil, donc c'était plutôt une bonne surprise parce que c'est pas évident, c'était un film quand même très très exigeant. Et donc, le prix du jury jeune, comme le prix du jury sci-fi d'ailleurs, puisque le film a été beaucoup récompensé, c'est La Maison des Ombres, alias Awakening, le film de Nick Murphy avec Rebecca Hall, dont effectivement on vous a dit tout de bien qu'on pensait cette semaine, mais le film en fait est plutôt à réévaluer après avoir vu le reste de la compétition, parce qu'effectivement c'est un très bon film de maison hantée, mais je pense que s'il avait été dans la compétition par exemple l'année dernière, il serait certainement pas reparti avec un prix, mais bon, n'en demeure pas moins que là dans ce qui a été présenté, moi d'abord on l'avait pronostiqué hein, et c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé et je trouve que c'est un très bon film, très bon film fantastique au sens noble du terme et un très bon film de maison hantée avec une interprétation vraiment excellente et puis Et puis bah, une réalisation au taquet, quoi, vraiment très bien aussi. Donc voilà, bah, que demander de plus, n'est-ce pas Pierrick?
Ouais, enfin, comme toi j'ai bien aimé, enfin, d'ailleurs je l'ai défendu comme toi il y a quelques jours. Moi je dirais quand même que ce film de fantôme, son souvenir s'estompe au fur et à mesure des jours. Bon, ça restera pas un film à mon sens marquant de cette compétition. Même si le prix est justifié, hein. Enfin voilà, c'est un film de bonne oui. facture. On en parlait tout à l'heure, la scène d'exposition est vraiment très très bien. Enfin, je dirais même c'est une leçon de cinéma par rapport à beaucoup de scènes d'exposition qu'on a vues dans les autres films, c'est-à-dire que dans la maison des ombres, ouais. En 2 minutes, tout est posé.
Tout est posé, voilà, le caractère principal, le personnage,
les enjeux,
ses obsessions, c'est l'enjeu du film. Ouais. Vraiment.
Dans une scène très rapide, très bien montée. Le film est très bien joué d'ailleurs.
Il faut reconnaître, hein, Rebecca Hall n'est pas que belle, elle est aussi une excellente actrice. Et puis Dominique West. Qu'on retrouve avec plaisir Monsieur McNulty.
Le McNulty de The Wire.
Exactement, mais aussi le gros balèze de Centurion de Neil Marshall, que moi j'aime bien, même si c'est un gros film de bourrin, à la limite du bis absolu, bah moi j'aime le cinéma bis. Et donc j'aime Centurion, et j'avais bien aimé Dominique West aussi dans ce film. Et voilà, puis là il est encore très bien.
La Maison des Ombres qui revient 3 fois dans les prix, parce qu'il a eu aussi le prix ex aequo du... Alors je sais plus, le prix du jury.
Exact.
Il a eu le prix du jury donc il a été un peu récompensé à tous les niveaux.
Il a eu le prix du jury avec le film qu'on a trouvé le plus consternant de la sélection. D'ailleurs, ça a été quand même. L'accueil a été mitigé dans la salle. Mitigé, hein, parce que par exemple, le court-métrage qui a gagné, le cri, l'accueil a été mauvais, le type est monté. Enfin, c'est un peu triste parce que le type est monté sur scène, s'est fait chambrer par le public et tout. Ce qui est pas sympa, hein, le jury a décidé, le type a gagné. Bon, voilà, il faut respecter l'avis du jury. Mais bon, c'est vrai que. Bah Beast, bon voilà, on vous a dit tout le mal qu'on en pensait en début de semaine. Je pense qu'on va pas s'étendre sur un film qu'on n'aime pas de toute façon.
Faut quand même dire que le président du jury, Nki Bilal, est monté au créneau pour le défendre justement. D'emblée, il a dit voilà, c'est un choix contesté, mais on l'assume complètement. Et on sentait que le on l'assume, c'était aussi je l'assume quoi.
Oui, tout à fait. Donc on imagine deux films qui ont eu 4 voix quoi. Donc bon,
on imagine que Nki Bilal a défendu le film.
Eh oui, bah oui, car en fin de compte. Bah, nous, malgré tous les défauts qu'on lui reproche, en fin de compte, c'est pas étonnant parce que c'est assez proche de l'univers de ses dernières BD, je trouve. Enfin bon, dans les thématiques, dans les. Bon, sauf que dans les BD de Bilal, c'est quand même vachement mieux, quoi. Bon, ouais, voilà, quoi. Et puis.
Et pour juste pour finir quand même sur Beast, on l'avait aussi un peu pronostiqué. Enfin, c'est ce genre de film qu'on a trouvé tous les deux concernant, mais qui peut en même temps gagner un prix, parce que voilà, il y a ce côté abscon, on peut voir des choses. Et...
Non, je vais dire le fond de ma pensée.
Finalement, ça fait passer des vessies pour des lanternes.
Voilà, je vais dire le fond de ma pensée, c'est le genre de film qu'on aime primer dans des festivals de films de cinéma de genre, parce que quelque part, on se dit que ça, ça légitime le genre, parce qu'en fin de compte, les intellos, ceux qui aiment le cinéma d'auteur et tout, peuvent se retrouver dans un film comme Beast. Alors que ces gens-là n'iront jamais voir La Maison des Ombres au cinéma, par exemple, ni même peut-être le Grand Prix, mais bon, enfin voilà quoi, c'est vraiment une construction. Ce genre de film a été régulièrement primé d'ailleurs au Festival de Gérardmer, puisque Beast se rapproche beaucoup de Grace de Paul Solette, y compris dans l'histoire et dans le traitement, dans la mise en scène, y compris dans la photographie qui est très proche. Et c'est vraiment pour moi un cinéma pompeux qui est créé pour pour légitimer le genre, et on prime ce genre de film pseudo-intello et pseudo-fantastique, parce que c'est même pas un film fantastique en plus, la boucle est bouclée, j'aime ce film. Alors mais il y a eu le prix du public aussi, alors que là on avait entièrement pronostiqué, qui était complètement prévisible, c'est Eva de Kike Maio, qui est pas immérité, c'est un film qui a des qualités plastiques, qui est vraiment fait pour plaire au grand public, qui a des, comment dire, un film qui a des qualités propres, voilà, un bon cinéma commercial, mais en même temps avec des thématiques intéressantes, avec un film de SF tout public, assez consensuel, mais en même temps bien troussé, très bien réalisé quand même, par contre, ça faut le reconnaître. Très bien mise en scène avec une très belle photo, très maîtrisée sur l'aspect technique, sur l'aspect effets spéciaux et tout, très, très maîtrisé, très bien interprété aussi, mais bon, voilà, nous, on n'a pas spécialement accroché, quoi.
Moi, j'ai trop maîtrisé sans accro.
Bah oui, mais bon, c'est
un peu dommage.
Oui, c'est, bon, c'est pas forcément un défaut non plus, mais bon. Enfin voilà, nous on n'est pas super fan d'Eva, mais néanmoins on ne veut pas vous priver de l'envie d'aller voir ce genre de film au cinéma qui peut rencontrer son public, hein. Et puis là, pour terminer, on a un film qui a rencontré justement, bon voilà, on l'avait pronostiqué, on a winné, on a gagné comme l'année dernière, hein. Prix de la critique et qui a eu le grand prix, ben, c'est Baby Call. Donc on a consacré toute la première partie de l'émission à ce film, donc on va pas revenir sur ce film. Voilà, Baby Call, un grand prix largement mérité, hein, une vraie réussite, n'est-ce pas Pierrick?
Ouais, et dans le relatif et dans l'absolu. C'est-à-dire, c'est le film qui se dégageait d'une compétition assez faible.
J'aime bien quand tu parles comme ça, Pierrick, c'est beau. Et dans le relatif et dans l'absolu.
C'est vrai, il se dégageait d'une compétition assez faible, forcément, mais au-delà de ça, il méritait le prix, parce que voilà, c'est un grand film tout court. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il sort sur les écrans français, contrairement à Medieval de l'année dernière, oui, c'est ça. Et il va sortir en salle le 2 mai, Baby Call.
Mais, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire durant le mois de mai. Enfin, s'il passe dans une salle proche de chez vous, hein. Là, c'est, par contre, ça, c'est pas gagné. Mais en tout cas, on est ravis qu'il sorte sur les écrans.
Et pour les plus curieux, Eva sort sur les écrans le 21 mars.
Le 21 mars, ouais, j'avais retenu la date, puisque c'est une date presque mythique. Vu qu'il y avait le mouvement du 22 mars, voilà. Bon, chacun ses repères, hein, politiques, géostratégiques et cinéphiliques. Et donc voilà, comment dire. Pour terminer, je dirais juste le petit regret, c'est que elle a pas été récompensée. Et en plus, à l'annonce des films, il a été sifflé. Alors bon, bah nous, on assume, on aime elle, voilà, qu'on a trouvé très bien ce film. Allemand,
pas qu'on assume, je comprends pas du tout pourquoi il a été sifflé. Il y avait rien de contestable dans le film, enfin.
Bah visiblement si, puisqu'il a été sifflé. En tout cas, nous, on adore. Enfin, je veux dire, nous, on a beaucoup aimé ce film. Donc bon, mais il a pas été primé. Là, on s'est un peu planté sur ce coup-là. Mais j'avoue que je ne comprends pas, et je comprends pas le rejet du public pour ce film. Enfin bon, voilà, c'est comme ça.
Film post-apocalyptique de bonne facture.
Ils en avaient marre, peut-être. Il y a eu trop de films post-apocalyptiques, y compris d'ailleurs le film de clôture de ce soir qui a été The Divide de Xavier Jans, qui était un film post-apocalyptique qu'on a déjà chroniqué dans Culture Prohibée. Et vous avez déjà pu y écouter Xavier Jans parler de son film lors des émissions sur l'étrange festival. Eh bien, Pierrick, malheureusement, nous allons devoir quitter les Vosges. Et retourner dans nos studios habituels. Et donc, eh ben voilà, c'était Culture Prohibée, attaque Gérard May. On remercie donc Public System pour son accueil tout au long de ce festival. Et on espère revenir l'année prochaine pour une 20e édition, ce qui n'est pas gagné vu la teneur des discours de début de cérémonie de clôture. On annonçait plutôt peut-être qu'il y avait une 20e édition, ce serait peut-être la dernière. C'était pas très rassurant en fait, mais bon, on va pas épiloguer là-dessus parce que bon voilà, on verra bien. J'espère qu'on y sera l'année prochaine, parce que c'est quand même un super festival, ce festival de films fantastiques de Gérard May.
Petite dédicace aussi à Delphine qui nous a suivis pour les projections des films cette année, même si elle a pas participé à l'émission.
Voilà, oui, parce qu'on est cette année, on était venu en quatuor. Donc voilà, on vous dit à l'année prochaine à Gérard May, puis rendez-vous cette semaine pour l'émission habituelle sur votre antenne préférée, pour votre émission préférée, qui était donc aujourd'hui préparée et animée par les équipes des Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr, plus d'infos sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com. L'émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone, mais surtout co-animée par le magnifique Yeti Breton, alias Pierrick Guénec, évadé de la rédaction du Courrier Picard, et puis, the last but not the least, à la technique, celui sans qui nous ne serions rien, l'ami Léo Magnin. Voilà, salut les gens, et rendez-vous l'année prochaine dans les Vosges. Together.